Je suis heureux de venir vous parler pendant que le père Urfal est en train de subir sa pénitence annuelle.
C'est enregistré.
Voilà, donc la thématique, la écologie et ascèse chrétienne. Moi, sur la thématique de l'écologie, je la travaille depuis... Alors, j'ai une sensibilité, on va dire, un petit peu forte à la nature depuis longtemps, quoi, depuis mon enfance. Mais j'ai travaillé un peu plus le sujet depuis quelques années, notamment en accompagnant un groupe de jeunes professionnels sur un an, là où voilà, on essaie de travailler un peu ces problématiques-là. On vient de faire le week-end dernier, notre premier week-end. Après, il y a des alternances entre soirée et week-end. Voilà, c'est des gens qui ont un peu le feu dans ce domaine-là, donc c'est vraiment assez stimulant. Et du coup, c'est vrai que je travaille un petit peu pas mal ces questions-là. Là, je voudrais essayer d'aborder la question en regardant un peu, peut-être d'abord, les liens entre écologie et puis spiritualité, des éléments qu'on trouve dans l'encyclique du pape François. Ensuite, le lien entre, peut-être un petit rappel entre spiritualité et ascèse, chrétienne. Et puis après, je déploierai un petit peu plus, je dirais, à partir de grandes vertus, on pourrait dire, qu'on exerce dans l'ascèse. Regardez en fait comment il y a quelque chose qui peut se jouer à travers ce qu'on pourrait appeler la conversion écologique, quoi, ou l'attention à ces problématiques-là et au changement de comportement, on pourrait dire, que ça réclame. Un premier point sur écologie et spiritualité, quand je dis spiritualité, c'est entre parenthèses spiritualité chrétienne. On pourrait dire, c'est que l'écologie implique la spiritualité. Je vais dire autrement, mon rapport à la terre implique mon rapport à Dieu. Ça, c'est des choses assez habituelles, mais que le pape François rappelle quand même. Il dit on a trois relations fondamentales qui sont bien décrites. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans Dieu créateur, votre première séance. Dans Genèse 1, Genèse 2, 3, là, on voit bien que on nous parle de la relation entre l'homme et Dieu, on nous parle de la relation entre l'homme et la femme, et puis la relation entre l'homme et la terre. Voilà, il y a ces trois relations assez fondamentales qui sont indissociables les unes des autres, et quand l'une est blessée, les autres sont blessées, et quand l'une progresse, les autres progressent aussi. Donc ça, c'est quand même ce premier point, un élément quand même fondamental de l'anthropologie chrétienne. C'est ces trois dimensions, ces trois relations, on pourrait dire, fondamentales, même si la relation, peut-être au sens plein, elle est d'abord entre des personnes, et pas avec... Mais vous voyez, donc, alors, analogiquement, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que, voilà, la manière dont je regarde la Terre, la manière dont je la considère, dont j'en fais usage, engage mon lien avec Dieu. Alors, je redéveloppe un tout petit peu, là, j'étais dans Genèse, je trouve qu'il y a un livre dans toute la Torah, celui qu'on fera la prochaine fois dans le cours, le livre du Lévitique, qui est souvent un peu un truc un peu pour lequel on a un peu un angle mort. Ça rend un peu, c'est quand même un petit peu obscur, ces histoires de si je touche un verre d'eau, est-ce que après je peux aller faire, vous voyez, des trucs très compliqués. Et en fait, cette spiritualité, enfin ce livre du Lévitique, il nous dit en fait chacun des petits gestes que je pose dans mon usage des créatures, des biens matériels, de la nature, ça... Alors, ça se traduit en termes, dans des catégories de pur, impur, et donc est-ce que je peux accéder au sanctuaire ou pas au sanctuaire, et donc est-ce que je peux rendre un culte à Dieu. Mais il y a une intelligence profonde à l'œuvre, c'est que chacun de mes gestes engage ma relation à Dieu. Chacun de mes petits gestes quotidiens. Ah, ça, je trouve ça hyper intéressant, et il me semble que, bon voilà, j'y reviendrai dessus à la fin, dans le souci ou l'attention écologique, l'attention à tous les biens matériels, en fait, on peut retrouver un peu cette spiritualité du Lévitique, cette intelligence spirituelle-là. Voilà. En tout cas, pour dire que c'est le cœur de la Torah, c'est le grand livre central de la Torah, qui nous dit vraiment de manière très concrète comment ma relation aux créatures, aux biens matériels, aux choses matérielles, même dans des trucs qui paraissent anodins, hein, en fait, implique ma relation à Dieu et mon acte d'adoration. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très intuitif chez chacun de nous, donc on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler pour rentrer dans cette intelligence-là, cette espèce de décloisonnement, quoi, entre le quotidien et puis la vie spirituelle.
Voilà, et au fond, à travers tout ça, on peut voir déjà se profiler un peu le danger d'une écologie sans une dimension spirituelle. C'est-à-dire, si ce que je dis là, si ce que nous montre la révélation, mais qu'on peut aussi quand même penser philosophiquement, si cela est vrai, voilà, alors une écologie où on ne parle pas du tout de Dieu, on sent bien qu'il y a un angle mort et il y a aussi une difficulté. Alors, le pape François, je crois que c'est le paragraphe 75 de l'encyclique, il le dit comme il sait faire, c'est-à-dire tout à coup il saute à deux pieds joints dans la mare et dit « S'il n'y a pas l'image d'un Dieu père et créateur, alors il y a un moment où il ne peut pas y avoir vraiment de frère, de figure du frère, et je ne peux pas vraiment accueillir la création comme un don. » Et donc ça va être très, très difficile de la respecter. Vous voyez, il dit à un moment, c'est-à-dire, tout le travail que fait cette encyclique, c'est de dire « Il y a une crise écologique, mais elle a une crise environnementale, mais elle est indissociable d'une crise sociale, donc il n'y a qu'une crise socio-environnementale, étage 1, étage 2, relation 3, relation 2, vous voyez, relation à la terre, relation aux frères, à autrui, homme-femme, puis après les frères, Cain et Abel, Genèse 4. Et puis il dit, et cette crise socio-environnementale, elle a des racines spirituelles, c'est aussi une crise spirituelle. Ça, c'est vraiment le travail de fond de l'Odette aussi, pour dire, voilà, il y a une crise spirituelle. Et donc, on voit bien, il y a des trois étages, chacun engage une des relations avec la terre, avec le frère, avec le prochain, avec Dieu. Et donc, il conclut à un moment, il y a un moment où il dit, voilà, si on veut sortir de la crise niveau 3 et niveau 2, il faut descendre jusqu'au niveau 1. Et donc, il faut retrouver la figure d'un Dieu père et créateur. J'ai vu que notre ami Michel Aupetit, notre archevêque, il l'a refourgué à sa course aux homélies l'autre jour devant les parlementaires. Il est passé la messe pour les parlementaires. Ouais, vous voyez, c'était il y a 8 jours, donc au moment du vote, hein, au moment du vote de la loi, il a fait une homélie courte qui est assez bien sentie. Bah, et à un moment, il balance cette petite bombe-là. voilà, pour dire, à un moment, il faut retrouver la figure de Dieu Père. Sans cela, donc, quels sont les risques d'une écologie sans Dieu, on va dire, pour parler français? Moi, je dirais un peu, peut-être que se profile le nouvel humanisme athée. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se reconfigurer, on est en train de chercher quelque chose, on touche un peu la fin d'un système. Alors, je ne sais pas si le monde explosera avant qu'on ait reconfiguré ou après. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se cherche, et dans cette redéfinition, dans cette nouvelle... ce nouvel équilibre, il y a un risque réel qu'on reconstruise un nouvel humanisme, mais un humanisme athée, quoi, comme pour reprendre l'expression un peu de Lubac. Et donc, quelles sont une écologie sans Dieu? Le premier risque, en fait, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à prendre le virage. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à trouver les vrais leviers qui motivent une vraie conversion, peut-être qu'on va pas le vivre. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour engager une transformation profonde des comportements, il faut des motifs assez profonds. Et si on ne descend pas assez profond, ben les gens ne vont pas se mobiliser. Et donc le premier risque, c'est que du coup, on n'ait pas le temps de prendre le virage, et donc que la planète implose, quoi. Ce que disent un certain nombre de personnes sérieuses. Il y a des gens un peu... qui font sport, mais il y a des gens sérieux, moi j'en ai vraiment rencontré, des gens qui bossent, ils font tout pour que ça marche, puis ils disent, non mais en fait, bon, c'est dommage, on a commencé à prendre le virage, mais vraiment, on prend trop large, et donc je pense que ça ne marchera pas. Voilà. Il y a des gens qui tiennent ce discours-là sans être des dingues, quoi. Donc un premier risque, parce que il y a des personnes, vous voyez, qui même sans être de la cathosphère, ont cette intuition que les vrais leviers sont spirituels. Donc Nicolas Hulot n'est pas très loin de formuler des choses comme ça. Yann Arthus Bertrand, dans un autre domaine, dans un autre registre, j'allais dire, il dit quasiment la même chose. Il dit, si on ne trouve pas des leviers spirituels, on ne prendra pas le virage. C'est intéressant que des voix un petit peu à l'extérieur disent quelque chose comme ça. Et donc, l'un et l'autre, ils disent, le meilleur texte pour la conversion écologique, c'est l'Odette aussi du peuple François. Alors qu'ils ne sont pas de la boutique. Un deuxième risque... C'est ce que je dis, vous voyez, donc là, le risque, c'est qu'on loupe le virage. Le deuxième risque, c'est qu'on le prenne, mais en mettant en place une forme d'idéologie très moralisante. On a des petits signaux, vous voyez, avec le genre littéraire Greta Thunberg. On sent bien, vous voyez, les injonctions morales. Alors, je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, hein, mais c'est très très pénible hein, comme registre. Et donc, ce qui est possible aussi, c'est que vraiment, si on se réveille trop tard et qu'on est juste dans un registre de peur, oui, on n'est pas dans les profondeurs d'une conversion spirituelle, ça va être des injonctions très morales, quoi, très, quelque chose de très sec, et vous voyez, qui va venir par en haut, quoi. C'est pas impensable, une espèce de, je dirais un peu de totalitarisme vert, quoi. C'est pas impensable qu'on bascule dans quelque chose comme ça, quand tout à coup les gens ont paniqué et se dire, en fait, on veut pas crever, donc prenons des mesures drastiques, quoi, imposées à tout le monde. Et un autre risque encore, ça peut être aussi ce qu'on voit un peu, peut-être, dont on voit des petits signaux apparaître, c'est non pas d'une. Donc là, vous voyez, ce serait un peu une. Le deuxième point que je donnais, c'est une idéologie un peu inhumaine, dans le sens où c'est une idéologie qui est assez dure, pélagianiste au fond, c'est-à-dire qu'en fait, on va y arriver à la force du poignet. On va y arriver à la force du poignet. Or, le point de l'ascèse chrétienne que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'art de l'ascèse chrétienne, c'est que je fournis un effort, mais qui est aussi le lieu d'une ouverture à la grâce de Dieu. Et donc, si la conversion n'est que du registre de l'effort à la force du poignet, on va vers quelque chose d'assez dur, quoi. Ça peut être quelque chose de très sec. Et le troisième point serait plutôt quelque chose de quasiment anti-humain, vous voyez, avec les lignées un peu antispécistes ou des choses comme ça. Finalement, on va trouver comme levier l'idée que l'homme a à peine sa place sur cette terre. Vous voyez, ce serait une espèce de point de levier un peu idéologique. Voilà des risques possibles sur ce premier grand point, écologie et spiritualité. Un deuxième petit point, je voudrais parler un petit peu de l'ascèse. On pourrait dire dans la vie spirituelle implique l'ascèse. C'est-à-dire que la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie qui fait de plus en plus de place à Dieu, elle passe par une pratique concrète, la mise en œuvre des vertus dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Et le schéma vraiment un peu classique des pères de l'Église, des premières générations chrétiennes, c'est vraiment de dire, voilà, l'homme, il a été créé avec une perfection, mais qui était prête à en devenir. Mais vous voyez, toutes les vertus, toutes les semences des vertus sont en nous, enfin, en Adam. Et donc, elles étaient faites pour grandir, et arriver à plein épanouissement. Et donc là, c'est ce que on va appeler dans la tradition orientale la divinisation, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sanctifié, on dirait plutôt sanctifié. Dans tout l'Orient, ils disent plutôt divinisé, c'est-à-dire qu'on y a vraiment une communion transformante avec Dieu, quoi. Et alors la chute, le péché produit un décrochage et fait qu'il y a un détournement, c'est-à-dire que nos facultés vont être utilisées à contre-pied, à contre-emploi, contre-nature. Et donc globalement, c'est quand même l'idée que je vais me mettre à me focaliser sur les biens terrestres au lieu d'en faire un usage pour atteindre les biens spirituels. Et donc, un des grands mouvements, c'est de chercher les plaisirs plus directs au lieu de trouver ma jouissance dans des biens spirituels, ce pourquoi je suis fait. Bout du chemin, on va dire, enfin, milieu du chemin, c'est la venue du Christ, qui, en son humanité sainte, en fait, c'est non seulement le nouvel Adam, mais c'est l'Adam achevé, c'est-à-dire qu'au fil de sa trajectoire, il est arrivé, je dirais, à pleine maturité humaine, donc nous avons devant les yeux l'homme vertueux, du coup, plein de Dieu. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire que le Christ n'est que homme, mais dans son humanité, voilà, il y a ça qui est là. Donc, on a plus qu'Adam dans le Christ. C'est Adam arrivé à maturité, ce qui n'a pas eu le temps de faire le premier. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce trésor-là qui nous est donné. Voilà. Et donc, par la grâce du baptême, nous sommes restaurés pour pouvoir revivre cet itinéraire de transformation personnelle. Voilà un peu, je dirais, l'arrière-fond pour comprendre aussi la fonction de l'ascèse. L'ascèse, voilà, c'est de permettre à ceux qui en nous a décroché, c'est-à-dire la manière dont nous faisons un mauvais usage de nos facultés spirituelles, principalement. Comment, voilà, par la grâce de mon baptême et la manière dont je vais me l'approprier, la laisser grandir, eh bien, peu à peu, je décroche par rapport au mal et je me tourne vers ce qui est bon pour moi. Je retrouve, en fait, ce pourquoi mes facultés sont faites et je les exerce en les orientant vers leur bien propre. Voilà, et ce travail-là de conversion, vous voyez, s'arracher au mal, choisir le bien, c'est proprement ce qu'on appelle l'ascèse au sens large. C'est l'ascèse au sens large. Ouais, donc qui engage un effort, mais un effort indissociablement lié au fait d'accueillir la grâce. Une grâce qui est donnée, déjà. Et donc, il y a une insistance aussi pour dire c'est un effort, mais en fait, c'est un doux effort. Il y a une douceur aussi dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a un esprit de conversion qui est donné, comme disent certains pères de l'Église. Alors, je développe un tout petit peu la vision de l'ascèse. Souvent, nous, quand on entend ascèse, on entend mes efforts de carême de quand j'étais petit, quoi. En gros, c'est un peu ça. On dit, moi, quand j'étais, on mettait dans une petite boîte les trucs qu'on n'avait pas mangés pour le petit-déj, et à la fin, mes parents, ils faisaient une petite offrande, et ça. C'était encore old school, quoi, un peu. C'était la queue de la comète. Non, mais aujourd'hui, non, mais globalement, je vais en dire un mot d'ailleurs, il ne se passe plus grand-chose au point de vue de la cesse corporelle. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que déjà, si on n'a pas mis de confiture sur le beurre, ben, c'est déjà là quand même. Attention. Quand on voit le repas de ce soir, normalement, c'est à Pâques. Normalement, c'est à Pâques qu'on a un truc comme ça. Quoi. Voilà. Donc voilà pour nous, dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire le monachisme notamment, puis les toutes premières générations chrétiennes, il y a le jeûne, hein, qui est la première acte de la ascèse corporelle. Il y a l'éveil, c'est-à-dire on lit un peu la Bible la nuit, quoi. Pas on regarde des séries, on regarde un peu la nuit. Il y a le travail physique, le labeur physique. Et puis, mais qui arrive un peu après, quand il y a la discipline, on se donne des petits coups de fouet pour s'unir à la passion de Jésus. Et l'engagement aussi, et aussi l'engagement du corps dans la prière. Parfois, les métanies, les grandes genouflexions, rester à genoux, bien faire je sais pas quoi. Voilà. L'engagement du corps, le fait de fournir un peu d'effort. Ça, c'est quand même des actes assez traditionnels qui sont encore assez présents dans les églises orientales. Moi, j'ai dîné avec un moine il n'y a pas très longtemps qui traîne pas mal en Orient. Et lui, il disait, les mecs, vous vous en foutez le vendredi Il dit, mais lui était très choqué de voir que même les prêtres s'en foutent du vendredi. Quoi. C'est-à-dire qu'en Orient, mercredi, vendredi, jeûne, ça ne veut pas dire qu'on ne mange rien, mais voilà, il y a un rythme ascétique, quoi. Qui n'a pas été perdu de vue. Nous, on a quand même pas mal décroché, je vais y revenir. Ça, c'est l'ascèse qu'on pourrait dire active, l'ascèse corporelle active. Et puis, il y a une ascèse corporelle passive qui a toujours été repérée, c'est que parfois, j'ai rien demandé et il m'arrive des trucs. Bon, comme moi, par exemple, avant-hier, parce qu'il y a des travaux partout, je me suis vautré en vélo. Bon, à cause de Madame Hidalgo. Non, je rigole. Vous voyez, non, mais je prends ça parce que moi, j'ai pas de problème de santé. Vous voyez, le problème de santé, la maladie, le truc, etc., une pénibilité. Il y a toujours eu un travail aussi pour dire fait partie aussi de l'ascèse, cette dimension plus passive, où je vais consentir, ça veut dire qu'il ne faut pas se faire soigner. Et je vais consentir à voilà, bah, des choses qui me tombent dessus, qui s'imposent à moi. Le mal au genou, le je sais pas quoi, ça rentre, vous voyez, ça peut être digéré spirituellement, ascèse corporelle passive. Mais tout ceci vraiment est ordonné, c'est-à-dire on n'est pas dans une espèce de négation du corps, d'hostilité au corps, le but c'est de renverser le fait que l'âme se soit comme soumise aux besoins, au sens, quoi. Et donc l'idée c'est de renverser, de remettre le corps au pas. Donc c'est refuser au corps ce qu'il réclame de manière désordonnée par des petits actes très concrets où on va renverser les choses. Mais le but de l'ascèse, c'est donc l'ascèse spirituelle, c'est la vie de l'âme. C'est la vie de l'âme. C'est que les facultés puissent s'exercer de la manière dont elles sont faites pour s'exercer. Donc ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut pas isoler une ascèse corporelle qui serait... On sent bien que c'est latent, l'idée un peu de dire qu'il y a une hostilité par rapport au corps. Et donc on arrive à cette ascèse spirituelle. Donc là, c'est peut-être moins ce qu'on entend, nous, par le mot ascèse. Or, en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est que c'est ce qui est finalisé par cette divinisation, c'est-à-dire, on pourrait dire, cette ouverture de l'homme à Dieu, mais par l'exercice concret des facultés. Vous voyez, la divinisation, ce n'est pas juste un truc, je ne sais pas comment, non. Ça se joue par des actes de la volonté, des actes de l'intelligence, des actes de mes facultés, des actes qui vont dans le droit. Voilà. Et dans ces facultés de l'âme, on pourrait dire, il y a dans la tradition ancienne des pères de l'Église, hein, on est attentif, en fait, il y a la partie désirante de l'âme, ce qu'on appelle le concupiscible parfois, la partie désirante de l'âme. Il y a la partie agressive, ce qu'on appelle l'irascible. Et puis il y a la partie rationnelle qui connaît. Voilà. Et à partir de ces trois parties de l'âme, on va être attentif aux facultés qui permettent que ces trois dimensions, on pourrait dire, de l'âme humaine aillent dans le bon sens, se développent dans le bon sens. Vous voyez, la partie désirante, il s'agit de se mettre à regoûter les biens spirituels, avoir une jouissance des biens spirituels. Vous voyez, goûter un acte vertueux. Développer un goût pour ça. On sent bien que plus on est dans la sensualité au sens large, plus on perd cette sensibilité fine au plaisir, aux joies spirituelles que Dieu veut nous donner. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait une déchéance de la capacité à jouir. Alors, je suis fait pour jouir de biens spirituels. Et comme il y a eu un décrochage, alors maintenant je compense, vous voyez, en mode infra-humain dans le petit plaisir qui n'est pas forcément aller dans des clubs, vous voyez, la nuit. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans des trucs complètement trash pour être déjà dans l'infra-humain d'une certaine manière. Alors ça, c'est, vous voyez, pour la partie désirante. La partie agressive, qu'on a parfois un peu moins en tête, parce qu'on va tout de suite dire, c'est pas bien l'agressivité, oui, aujourd'hui, c'est pas du tout une valeur qui est valorisée. Hein. Agressivité, non, bienveillance, douceur et transparence. La partie agressive, c'est le côté un peu... En fait, si, il faut que ça soit honoré en nous, et au fond, ce que disent les pères de l'Église, c'est que ça, c'est aussi engagé fortement dans le combat spirituel. Voilà. Je vais combattre le mal et choisir le bien, me battre pour le bien. Donc il y a quelque chose, il y a une combativité à mettre en œuvre dans la vie spirituelle, cette dimension irascible de l'âme. Alors ils exploitent pas mal le petit verset, le royaume de Dieu, les violences s'en emparent. Voilà. Donc, ils vont chercher, parce qu'ils cherchent, je pense qu'ils cherchent, ils disent tiens leur irascible, où est-ce qu'on a une... Hop, puis dans les évangiles, ils trouvent cette phrase-là. Puis la partie rationnelle, c'est connaître les, de manière juste les créatures, et porter un regard juste sur elles, et connaître Dieu en lui-même. Nous sommes faits pour connaître Dieu réellement. Voilà, et cette croissance, alors c'est trois dimensions, on pourrait dire. Cette croissance, dans la tradition aussi de... On va dire de cette grande vision un peu de ce que c'est que la cesse chrétienne, chez les pères de l'Église, on va dire qu'il y a des vertus un peu génériques, il y en a trois grandes, on va dire, qui honorent chacune de ces... Alors pour la partie désirante, ça va être la vertu de tempérance, vous voyez, qui va venir mettre un terme à cette espèce de rapport passionné au bien matériel et au plaisir sensible. Non pas pour ne pas en avoir du tout, c'est-à-dire qu'on a le droit de se réjouir d'un bon dîner, mais pour en faire, vous voyez, pour que ça soit récupéré, pour que ça soit intégré spirituellement d'une manière juste. Vertu de tempérance. Du côté de l'agressivité, la vertu de courage, du côté de ce courage dans la vie spirituelle, peut-être qu'engage aussi davantage la volonté, mais en registre de la force spirituelle. Et puis du côté de la connaissance, c'est plutôt la vertu de prudence comme discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, comme vertu un peu de départ pour eux. Alors maintenant, là, avant de développer ça et voir comment dans l'écologie ça s'est engagé, dans la conversion écologique, j'aimerais quand même dire un tout petit mot de la situation aussi où nous sommes, et on va voir du coup que les fils se croisent un peu, où je dirais, donc après avoir parlé de la vie spirituelle qui implique l'ascèse, je voudrais un petit point sur le fait que, donc dans spiritualité SS toujours, c'est le fait qu'il y a une rupture, comme une rupture récente, on pourrait dire, dans la tradition spirituelle. Un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez, c'est que nous, on ne sait plus vraiment ce que c'est que l'ascèse. En tout cas, en Occident catholique, ça devient quelque chose quand même de très, très... Je ne dis pas qu'on ne pratique pas du tout, qu'on ne fournit pas des efforts. Enfin, je ne doute pas de votre bonne volonté, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même une... C'est-à-dire, moi, personne n'a jamais rien appris sur la manière de jeûner et comment c'est stratégique dans la vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste dire aujourd'hui pas de viande. Non, c'est un peu plus, c'est plus fin que ça. C'est dire, en fait, voilà, le jeûne, c'est un acte en fait qui est au service d'un combat spirituel et que c'est un truc stratégique et c'est une arme en fait. C'est une arme. On sait plus faire. Vous voyez, moi, on m'a pas du tout enseigné ça. Donc, je pense qu'il y a une rupture qu'on voit typiquement, vous voyez, autour de la question du jeûne. Hein. Aujourd'hui, à part quelques personnes qui vont de temps en temps dans des lieux où la Sainte Vierge apparaît, puis elle dit jeûnez, jeûnez, jeûnez. Les gens reviennent en disant bon, faut peut-être jeûner. Mais à part ça, vous voyez, il n'y a qu'à plus que la Sainte Vierge qui réanime encore un petit peu le truc. Et il y a eu aussi une rupture, vous voyez, on voit bien, encore, moi je dirais, mes grands-parents, mes parents sont vieux, mes grands-parents, c'est 1900. Il y avait encore, jusque dans les années 50, il y avait le jeûne eucharistique. Je dirais que. C'était le dernier truc qui portait encore la pratique du jeûne. Alors, comme ça a été plus ou moins largué, moi, quand j'étais petit, on faisait encore. Hein, mais voilà, encore, vous voyez, je vais dire de votre génération, mais parfois, les gens ne sont même plus du tout au courant que avant la messe, on n'est pas obligé d'avoir mangé un quart d'heure avant, quoi, que c'est plutôt bien de laisser une... Je veux dire, c'est que c'est un truc qui s'est complètement fait. Et il y a 40 ans, c'était la veille au soir. Donc, finalement, quelqu'un qui avait envie de communier... Il jeûnait quand même en fait. Donc il y avait encore une espèce de pratique du jeûne qui n'était peut-être pas la plus adéquate. Donc c'est ça qu'on a voulu un peu dire, mais en fait c'est peut-être un peu bizarre d'être à deux doigts de tomber dans les pommes pour aller communier. Parce qu'il y a un côté comme ça, il fallait se lever très tôt, aller à la messe, parce que si on attendait 11 heures, on arrivait comme ça. Je force un peu, mais donc on a voulu corriger un peu cette pratique-là, mais du coup on a carrément, c'est-à-dire qu'on a largué le dernier truc où il y avait encore. Quelque chose qui était un précepte collectif de jeûne. Donc maintenant, les homélies de mon enfance, c'était jeûne de télévision. Voyons, le jeûne, ouais, le jeûne matériel, alimentaire, bon, c'est un petit peu archaïque, faisons des choses plus fines, quoi. Mais là, pour moi, c'est typiquement le signe d'une perte de savoir-faire, quoi. Quand on n'a pas compris qu'en fait, pour se sevrer de la télé, le jeûne alimentaire est très très utile. Ça veut dire qu'on ne sait plus faire. Voilà. Bon, je donne cet exemple-là pour dire, vous voyez, dans nos sociétés occidentales de confort, on a aussi décroché de ce qu'est de l'ascèse. Donc vous voyez que les choses se croisent un peu. Je suis dans une société où se pose la question de la sobriété, je vais y venir, mais je suis aussi dans une société où les communautés chrétiennes ont un petit peu décroché quand même par rapport à une pratique traditionnelle de l'ascèse. J'ai un petit focus sur le jeûne, il faudrait quand même élargir. Vous voyez, on voit bien que c'est pas, ça vient un peu par les deux côtés. Le danger, ça vous avez dû avoir des homélies du père Urfels là-dessus, mais on voit bien le danger d'une vie spirituelle sans ascèse. C'est-à-dire que si je vis dans le confort indéfiniment, il y a un côté anesthésiant pour le déploiement du désir. On connaît ça, enfin, je pense qu'on a l'expérience de ça. C'est-à-dire si dès que j'ai un peu envie d'un truc, j'ai une petite réponse qui vient, si je suis frustré, je sors ma carte bleue, je vais faire des courses, je vais m'acheter des bouquins, moi mon truc, ça devait m'acheter des bouquins, mais je rentre, hop, 5 bouquins. J'en lirai un peut-être, mais vous voyez, ça va mieux, vous voyez, la petite frustration est un peu amortie parce qu'on a... Ouais, l'acte de consommation comme le lieu de la non-frustration. Dans une société de consommation et de confort, on voit bien qu'il y a un effet très très anesthésiant pour le creusement ou le déploiement du désir. Je le dis en souriant, mais en fait c'est assez inquiétant quand on prend conscience de ça. C'est-à-dire, on n'est pas en bonne posture pour que, du coup, que la vie spirituelle puisse se déployer. Et une autre manière de le dire, l'anesthésiant serait un peu le côté du sommeil, on peut aussi le dire un peu d'un autre point de vue, si on prend un peu ce qu'ont en ligne de mire les pères du désert, qui est le repos, enfin le calme, la paix intérieure, on pourrait dire, ce qu'ils appellent l'ezikia, ouais. Le calme intérieur, vous voyez, de ne pas être dans l'agitation, d'être dans une société de micro-sollicitations multiples, notamment avec ces engins-là, ça c'est vraiment un des... Voilà. Là, ça c'est typiquement... C'est-à-dire qu'en soi, c'est très très bien, mais c'est typiquement, vous voyez, le petit outil qui amène de la sollicitation indéfinie du désir. Et donc, qui te maintient dans une espèce de petite agitation permanente, alors que la cesse doit permettre de déployer une espèce de sérénité, je ne sais pas si c'est le mot exact, vous voyez, un certain calme à l'intérieur. Voilà, ceci pour dire, sociétés de consommation et de confort sont extrêmement bloquants pour la vie spirituelle. Or, c'est une situation quand même assez neuve dans l'histoire de l'humanité, les sociétés de consommation. Pas le fait qu'il y ait du luxe, ça traverse toute l'histoire humaine. Mais que ça soit un truc de massif, très large, c'est nouveau. Et que ça soit aussi le paradigme général de dire, en fait, je me réalise par ma capacité un peu d'achat de biens de consommation. Ce que repérait déjà Marx d'un certain point de vue. Je développe un peu maintenant les trois points, après avoir établi un peu ce lien entre rupture de la tradition ascétique et puis émergence des sociétés du confort. Donc la vertu de tempérance, peut-être qu'elle pourrait aller avec la question de la sobriété écologique. Je vais le dire un peu autrement, il y a un enjeu à ce que cette vertu soit exercée dans la conversion spirituelle, dans la conversion écologique qu'on est en train de vivre. Vous voyez, on parle de transition verte. Parfois on parle de transition, parfois on parle de conversion, mais il y a un vrai enjeu de savoir en fait quelle forme ça va prendre. Et on voit bien que pour une part, aujourd'hui, on cherche des solutions technologiques surtout. On se dit en fait, on va trouver les technologies qui vont permettre de continuer à vivre de la même manière. Donc c'est typiquement le cas, vous voyez, autour de la voiture électrique par exemple. La voiture électrique, je pense qu'en soi, elle pourrait être vraiment intéressante, elle pourrait être une solution jusqu'à un certain point. Bon, il reste à trouver la capacité à stocker de l'énergie, bon, enfin des problématiques, je pense que vous connaissez, donc je ne vous fais pas le truc. Mais donc, il va falloir progresser un peu technologiquement encore. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un peu un progrès qui vient, alors en fait, on la monte en gamme, on dit « Ah putain, on va en rajouter dans les portes pour qu'elle puisse monter à 130 ». Et puis on va en rajouter encore dans les portes pour qu'elle puisse faire 700 bornes. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire « Ah, l'objectif, c'est que la voiture électrique de demain, elle remplisse exactement la même fonction que la bagnole diesel ou essence d'aujourd'hui. » C'est-à-dire besoin pour besoin. Voilà. Là, je pense que c'est la grande arnaque. C'est la grande illusion. Alors, il y a quelqu'un qui montre assez bien ça. Après, on n'est pas obligé de signer la thèse. C'est Guillaume Pitron, je pense, dans « La guerre des métaux rares ». Il y a peut-être quelques-uns qui ont... Personne n'a lu ce bouquin-là ? Ah, vous êtes à la ramasse. C'est quand même un livre qui a fait un petit peu de bruit sur cette question-là. Donc, lui, sa réflexion, c'est de dire... voilà, aujourd'hui on est en train de nous vendre des technologies vertes dites non polluantes, mais toute son analyse c'est de dire en fait ça réclame un traitement industriel en fait consommateur de carbone, et puis en fait c'est-à-dire pour mon portable, nous on a l'impression que ce truc là est un peu soft, consommer des vidéos en ligne par exemple c'est extrêmement énergivore. Et puis les petits matériaux, terres rares, métaux rares qui sont dedans, c'est un trou dans une montagne quelque part. C'est-à-dire que, alors qu'on me vend, c'est un peu le marketing Apple des années 90, alors qu'on me vend le truc transparent, vous voyez, tout en noir, avec les petites baskets blanches de Steve Jobs, vous voyez, qui fait ses présentations, vous voyez, c'est le monde soft de demain. Mais derrière ça, en fait, c'est un peu ce que dit Jean Spitron, il dit en fait, derrière ça, il y a des catastrophes écologiques en Chine où on traite les trucs n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la montagne, il y a un bazar pas possible, mais qui n'apparaît plus. Voilà, qui n'apparaît plus.
Pourquoi ? Parce que, en fait, on veut. Le mécanisme qui se met en place, c'est qu'on ne veut pas remettre en cause les comportements. Donc, on est en train de chercher les solutions technologiques, fonction pour fonction. Voilà. Donc, c'est une transition écologique, c'est pas une conversion. Il n'y a aucun changement de comportement induit. Si c'est ça, en fait, on n'y arrivera pas, parce que vous voyez, on va vers des technologies qui sont tout aussi polluantes. Après, il faut faire un tout petit peu attention. Parfois, il y a aussi Total et compagnie qui subventionnent des études pour dire non, en fait, la voiture électrique, c'est pire. Donc, ça va prendre aussi avec des pincettes. C'est-à-dire que c'est pire si on veut que ça se remplisse exactement la même fonction. Si, j'imagine autre chose, vous voyez, si on dit, en fait, on va faire une voiture électrique où on ne mélange pas 15 matériaux rares pour faire une turbine encore plus performante, on met un matériau simple, donc recyclable facilement. Et on se dit que c'est un. Et vous voyez, et on ralentit le rythme de l'innovation technologique. On se dit que ce modèle-là, il dure 20 ans. Et dans 20 ans, on verra. Vous voyez, là, je pense que la voiture électrique, c'est une solution qui peut apporter du changement, qui peut être une solution viable. Mais si on demeure dans la même intensité, ce qui est en train de se passer, vous voyez, en ce moment, les acteurs, les équipementiers en téléphonie, en réseau, ils sont au 5G, ils sont en train de donc Samsung est en train de déborder tout le monde sur la technologie 5G. Et vous voyez, ça veut dire qu'on veut le truc encore plus connecté, où ça tourne encore plus, alors que dans le même temps, vous avez un article tous les jours dans Le Monde, Le Figaro, etc., de tous les journaux, pour nous dire « Ah, ça consomme trop, c'est aussi consommateur que tous les avions qui tournent dans le monde, de faire tourner dans le monde sans gens. » Mais 5G quand même, demain. Vous voyez, cette espèce d'intensité... de l'innovation technologique, il y a un moment où voilà, on n'engage pas du tout de changement des comportements, de sobriété, d'aller moins vite, ça ne marchera pas. Alors moi j'ai mon petit lieu scripturaire pour parler de ça. Dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit il y a deux bêtes. La première bête, elle est, ouais, quand elle sort de, je crois qu'elle sort de la mer, elle est immonde, etc. Elle est en croc, elle fait peur. Donc vous voyez, elle est bien identifiée. Et un peu après, il y a une seconde bête qui vient, et elle, la seconde bête, vous voyez, c'est typiquement l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'elle elle présente bien, elle est belle, elle est attirante. Mais c'est la même, mais derrière, c'est la même chose. Tout ce monde-là est au service du dragon, quoi, dans l'Apocalypse. Alors là, je fais une application assez libre, mais vous voyez, on nous vend, après, donc on fait boue sur tout ce qui est carboné, après on nous fait sortir, vous voyez, les technologies vertes et propres. Ça présente bien, mais en fait, ça véhicule, d'un point de vue, si on regarde à partir de ce que c'est que l'ascèse chrétienne, ça véhicule les mêmes biais ou les mêmes risques ou les mêmes dérives. Voilà. Donc, nous, ça, ouais, ça réclame un certain jugement. Donc, il va falloir, vous voyez, que on est du côté de est-ce que les nouvelles technologies qu'on va mettre en œuvre, elles vont nous permettre d'exercer, elles vont dans le sens de la tempérance, elles vont dans le sens de peut-être moins vite. Vous voyez, on voit bien, c'est tout simple, mais la consommation du fruit de saison, ça veut dire pas tout le temps, tempérance. Si vous voulez faire vos courses sans déchets, il faut s'organiser un peu autrement, il faut prendre du temps pour ça. Donc ça va mordre sur le créneau scrolling, Facebook et compagnie, réseaux sociaux de la journée. Parce qu'en gros, c'est ça notre temps libre. Quoi. Enfin, peut-être pour certains d'entre vous. Problématique de transport, vous voyez, si je suis attentif à mes transports, de la même manière, voilà, c'est pas je saute dans ma bagnole et je vais où je veux, ça sera je réfléchis un peu, ça demande un peu de temps, ça demande un petit peu de contraintes. Donc on sort, on revient, on va voir, tout ceci va dans le bon sens. On sort de tout de suite avec des objets ou des pratiques qui me permettent de le faire. Donc voilà, pour tordre le cou à l'illusion qu'on trouverait des solutions. Ça ne peut pas marcher, parce que c'est un discernement chrétien. Ça ne peut pas marcher, un truc qui me maintient dans le même rapport tordu au bien matériel et qui serait la bonne direction. Ça ne peut pas marcher. J'avance.
Donc là, ça serait, vous voyez, vertu de tempérance, dans le même sens que cette sobriété écologique, qu'aujourd'hui, alors il y a des gens qui disent il faut absolument la mettre en place, mais il y a aussi toute une tendance un petit peu capitalistique qui cherche plutôt une voie sans sobriété. Ça ne marchera pas. Vous voyez, si vous regardez des gens comme le scénario de Negawatt qui disent comment on peut repenser le bouquet, on va dire, énergie de demain sans carbone, ben, il y a 30%, ça va être de foutre des doublures et des machins au mur. Il y a 30%, ça va être de passer avec du renouvelable. Je vous dis, pas du renouvelable, on met indéfiniment la turbine dernière génération, et donc avec un rythme technologique lent. Et puis, les 30% restants, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, on met un pull au bureau quand il fait plus froid. Vous voyez, on ne monte pas à 22 en disant, tiens, c'est quand même sympa de pouvoir être en chemisette l'hiver. En fait, c'est des choses aussi simples que ça. Mais donc, il y a un 30%, c'est-à-dire pour que ça marche, il y a un 30% qui est du côté de la sobriété. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir plutôt à la manière, un peu, pour certains aspects, dont vivaient nos grands-parents. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Le coup de l'orange à Noël, on est en train de revenir à ça. C'est-à-dire qu'une orange, c'est un truc précieux. Parce que c'est venu en bateau, vous voyez. Nous, aujourd'hui, c'est devenu un truc. Non, c'est normal, j'ai envie d'une orange, je bouffe une orange. Nos grands-parents, ils disaient, une orange, génial. Vous voyez, je sous-pesais le fait que ça a de la valeur, parce que ça a cheminé, ça vient de loin, c'est un truc, c'est pas quelque chose que j'ai soulevé. Mais c'est pas, vous voyez, je veux dire, c'est juste que nous, depuis 60 ans, il y a quand même une espèce de sortie de trajectoire, quoi. Dans un hyper-confort. Un deuxième point, là, sur la question de la connaissance et de la vertu de prudence, du coup, comment est engagée notre connaissance du réel à travers ces questions de l'écologie ? Il y a un premier point, vous voyez, qu'on pourrait appeler, c'est celui de l'insensibilité. L'insensibilité écologique. C'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous voyez autour de vous qu'il y a des bulles, que ça commence à bouillir ? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez dans la création autour de vous les signaux de la crise écologique ? Ou bien est-ce que vous dites, non, en fait, moi, je vois rien ? Ce qui pose une question, c'est-à-dire, si je vois rien, alors qu'en fait, le truc commence à bouillir, ça nous renvoie un peu dans la figure le fait que nous avons un déficit de connaissances. On est déconnecté de cette nature. Donc on est du côté de la vertu de prudence, ou bien vous voyez cette partie rationnelle de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous renvoie la figure le fait que notre capacité à connaître la création est malade. Alors que la création va mal, je ne m'en rends même pas compte. Pathologie, ça me reflète la pathologie de mon âme, quoi. La blessure de mon âme, dans mon incapacité à connaître. Donc je développe pas trop, mais voilà, ça dit qu'on a, ça nous montre qu'on a perdu un peu un sens du réel, vous voyez, un sens de la création, une connaissance même de ces équilibres. C'est comme, vous voyez, quand je prends une autre image, mais quand quelqu'un se suicide, et puis on se dit, ah bon, moi, j'avais pas du tout vu qu'il allait mal, quoi. Vous voyez, là, on se dit, ça nous pose une question, on se dit, j'ai un problème, ce gars-là, il est super mal, j'ai rien vu. Là, on est un peu dans le même registre, c'est-à-dire, la création va mal, et pour une part, nous ne le voyons pas du tout. Voilà, ça doit nous renvoyer au fait qu'il y a quelque chose qui est abîmé dans notre capacité de connaître. Et donc, on voit bien, voilà, ça veut dire qu'il faut réenclencher autre chose, redévelopper par la vertu de prudence, une capacité à discerner l'état de la création. Ça fait partie vraiment de ce qui est bon pour nous, hein, cette capacité à faire ça. Un autre point qui est bon, mais que je vais pas juste développer, mais ça engage aussi notre capacité. Vous voyez, comment est-ce que j'arrive à m'informer du côté de la connaissance et de ce qui est un peu de la discipline du connaître. Vous voyez, comment j'arrive à m'informer? Est-ce que je m'informe? Ou est-ce que je dis, bon, en fait, je m'en fous, on n'arrive pas à s'informer. Vous voyez, est-ce que j'arrive par ma culture un peu quotidienne de où est-ce que je prends mes informations, etc. Est-ce que j'arrive à me faire un peu des idées sur un certain nombre de choses que j'évoque là autour des questions écologiques? Ça ne serait pas normal, là encore, ça serait un peu pathologique de se dire on entend tout et son contraire, donc suspendons notre jugement. C'est infra-humain de dire ça. C'est tentant, hein, parce que c'est vrai qu'on entend tout et son contraire, on entend beaucoup de choses. Mais ça veut dire qu'il faut plutôt creuser, mettre en mouvement le fait que bah, je vais essayer de trouver des moyens de m'informer. Ça prendra peut-être du temps, mais je dois faire ça, quoi. Je dois pouvoir poser un discernement sur ce qu'il en est. Vous voyez, typiquement, l'exemple que je vous donnais autour des nouvelles technologies, quel jugement poser, oui, mais à quelles conditions est-ce que c'est la bonne direction? Ce qui est difficile, je pense, pour nous, c'est qu'en fait, c'est quand même un truc qui s'installe un peu comme un bruit de fond, hein. Le fait que ça va mal, etc. Et à un moment, on peut se dire, bah, si ça allait si mal que ça, on le saurait. C'est un peu comme, c'est comme quand les alarmes à incendie se déclenchent. Et quand c'est la dixième fois que ça nous arrive, on se dit, bon, en fait, une alarme à incendie, par définition, c'est que c'est un exercice. Alors nous, on est dans une ambiance médiatique, on nous dit, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un ami, on était en train de dire l'office le matin dans l'oratoire, alarme et tout. Et on ne bouge pas, on continue le psaume, évidemment. Puis en fait, au bout de 30 secondes, je me dis, ben, y a peut-être le feu quand même, on va aller voir. Et nous, on est un peu dans l'idée que les sirènes sont en route autour de l'écologie. Si vraiment c'est grave, quelqu'un va venir me tirer par la manche. Oui, mais là, c'est irresponsable. Je pense que c'est pas un exercice légitime, quoi, de notre connaissance. Ça c'est le deuxième point plutôt sur la question de la connaissance. Je pense que vraiment cette crise écologique elle nous pose des questions, elle nous montre qu'il y a un déficit dans notre capacité à connaître l'état de la création, les créatures. Et puis si on n'est pas inquiet qu'il n'y ait pas d'oiseaux, c'est parce qu'on repère jamais un bruit d'oiseau. Et si on n'est pas sensible aux oiseaux, le jour où ils ne sont plus là, c'est pas très grave, quoi. Et ça veut dire qu'il y avait une familiarité qui est perdue. Quelque chose qui a été, vous voyez, c'est-à-dire c'est plutôt une situation blessée. Et le troisième point, donc maintenant, enfin, vous voyez, avec du côté plutôt de la vertu, de l'agressivité, du courage, de la combativité spirituelle, là je pense qu'il y a deux points là encore où la question de la conversion écologique peut venir mobiliser, on pourrait dire, ces vertus-là en nous, l'exercice de ces vertus-là. La première chose, c'est quand même, si on s'est informé, si on a pris le temps de connaître, il y a un moment où on voit des choses bonnes à faire. Mais comme souvent dans la vie chrétienne, je peux voir une chose bonne à faire, ce sera le Romains chapitre 7, c'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, et ne pas la faire. Vous voyez ? Et là, ça pose une question. C'est-à-dire, comment ça se fait que je sais que ça serait mieux de moins prendre ma bagnole, mais qu'en fait, j'ai pas... Depuis 5 ans que je le sais, je prends les transports exactement de la même manière. Comment ça se fait que je sais que en fait, le plastique, il y a un moment où il faudrait se calmer quand même, et qu'en fait je n'ai pas infléchi du tout ma manière de consommer et de balancer mes déchets, si c'est le cas. Voilà. D'où est-ce que ça vient que j'ai pu identifier une chose bonne et que la volonté ne se mobilise pas derrière? C'est le grand étonnement, c'est pas neuf, hein, c'est pas propre à la crise écologique, non, la crise écologique, je vous dis, c'est Saint Paul, Romains 7, c'est Augustin dans les Confessions, je sais plus dans quel livre, mais ouais, c'est le grand truc, suis-je un monstre, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette volonté à deux têtes qui veut et ne veut pas? Et puis Luther aura un peu des descriptions du même ordre autour de Romains 7, là aussi. Donc on est au cœur de l'expérience chrétienne où je vois que, là tout à l'heure, le point d'avance c'était plutôt, je vois que mon intelligence, elle est blessée, elle est malade. Là, il y a quand même un lieu où je vois que ma volonté est blessée. Et donc voilà, entrer par les vertus de courage dans le combat spirituel, dans la mobilisation de ma volonté, en s'ouvrant au don spirituel de l'Esprit Saint de force, hein, qui va mobiliser ma volonté. Donc il y a les deux, hein, il y a l'effort. Mais ça, voyez, on voit bien que c'est en jeu de manière forte dans le fait qu'il y a urgence à agir. J'ai identifié un bien à faire, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. Donc on voit bien que l'ascèse chrétienne, elle peut vraiment être au service de cet écart qu'on constate, mais qui est socialement, entre un discours qui tourne et puis une lente, une espèce d'énorme inertie de la volonté collective. D'où vient ce retard, voilà, entre le constat et la mobilisation? D'où ça vient? Mettre en œuvre cette combativité spirituelle, mais ça veut dire aussi reconnaître la blessure de la volonté. Et c'est là où il y a un enjeu aussi à ce que les chrétiens soient présents dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes qui voient qu'il va falloir accueillir la grâce de Dieu pour pouvoir prendre le virage, si je reviens à mon image. Si on est dans l'illusion qu'il va simplement savoir se dire « j'y vais », non, c'est justement ce à quoi conduit saint Paul et ces expériences-là dans notre vie chrétienne. C'est qu'il va falloir entrer dans le combat spirituel, mais il va falloir aussi implorer le don de la grâce. Donc saint Paul, il arrive à ça, un malheureux homme que je suis, qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut, ou qui n'arrive pas à vouloir ce qu'il a identifié comme bon. Expérience crucifiante. Expérience de la blessure, de la cassure de ma volonté. Il y a quelque chose qui est malade dans ma volonté. Qui me délivrera de ce corps de péché, je pense Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Qui me délivrera? Il y a un moment où par moi-même, je vois que je ne vais pas y arriver. Versus l'idée d'un pur humanisme écologique, quoi. Non, va falloir. Donc, je pense aussi que si les chrétiens ne sont pas présents là-dedans, comme toujours, c'est-à-dire s'il n'y a pas le levain chrétien dans la pâte des hommes de bonne volonté qui cherchent à prendre le mouvement, il est possible que ce soit notre rêve, enfin, que le tournant ne soit pas pris à cause de nous, si nous n'y allons pas. Je dis ça sérieusement. Benoît XVI disait ça un peu autrement, bon, pas sur les clés écologiques, mais il disait il faut que les trucs. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit chrétien. Il ne le disait pas comme ça, mais je traduis un peu. Mais il faut que partout, il y ait des hommes qui aient les mains levées vers Dieu. Vous voyez, je vais le dire un peu autrement, un hôpital, ça tient la route tant qu'il y a suffisamment de monde qui, quand il dit dignité humaine, a une vision droite de ce que c'est que la dignité de l'homme. Si on lâche, alors on garde le truc, dignité humaine, et puis on fait, au nom de la dignité humaine, on tue. Il n'y a plus suffisamment le levain chrétien pour tenir. Il y a un enjeu de cet ordre, c'est-à-dire que nous soyons conscients qu'il faut être présent à ce mouvement qui est en cours dans la société où on est. On a une responsabilité de présence à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pas que en France, hein, c'est quand même c'est mondial quasiment. Ce serait quand même scandaleux que nous soyons les derniers à nous investir. Je fais une toute petite parenthèse. Là où il y a quelque chose à... On a un handicap en France, c'est que historiquement, là, dans les 40 dernières années, le sujet écologique a été porté exclusivement sur l'échiquier politique par des gens hyper libertaires. Et donc, non, mais donc dans notre inconscient catho de droite, j'allais dire, dans notre inconscient catho, non, mais il y a un peu l'idée que, vous voyez, que écologie égale gauche trash, qu'a porté tous les trucs un peu les pires du point de vue sociétal. Tout ce qui est de l'ordre de la déliaison morale, on pourrait dire de la déliaison sociale. Et du coup, vous voyez, je ne sais pas vous dans votre entourage, mais en général, le vieil oncle filloniste, quand vous lui parlez d'écologie, il ricane un peu, quoi, encore. Et il y a une grosse inertie. Alors, si c'est votre cas, c'est-à-dire si vous êtes un peu dans cette représentation, voilà, il y a un petit coup d'accélérateur à vivre pour dire, ok, on passons à autre chose, quoi. C'est-à-dire que voilà, il est pas tout mettre ensemble. Il faut être présent à cette question-là, mais justement d'une manière intégrale, c'est ce dont on a dû vous parler la dernière fois. C'est-à-dire vraiment faire les liens entre les différents étages. Je ne refais pas le pitch, parce qu'il a dû vous être fait la dernière fois. Ça, c'est un premier aspect, la blessure de la volonté. Et le deuxième, sur cette troisième donc, dimension, qui est celle du courage, de l'engagement de la volonté, de l'agressivité, c'est un élément important aussi. C'est ce qui arrive assez souvent, c'est que je vois le bien à faire, j'arrive éventuellement à le faire individuellement, mais en fait, je me dis à quoi bon ? À quoi bon ? C'est-à-dire, si je suis le seul à trier mes déchets et que j'ai tous les mecs autour qui ricanent, ou ouais, si je m'emmerde à prendre les transports en commun, puis je vois tous les dix, c'est-à-dire que on fait de l'espace et donc de toute façon, il y a toujours des bouchons indéfiniment. Et donc, il y a un moment, on peut se dire, bon, en fait, ça sert à quoi ? Dans une vision un petit peu conséquentialiste. Alors là, je dirais un peu deux choses. La première, qui est mon point principal, c'est que il y a un enjeu là, vous voyez, de courage politique, de conscience politique et de courage politique. Est-ce que nous croyons encore que c'est l'engagement des individus qui peut faire bouger une société ? Ou est-ce qu'on nous avons démissionné politiquement ? Voilà, ça c'est vraiment une question pour votre génération. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez à l'action politique ? Ou est-ce qu'on a basculé dans le... Est-ce qu'on pense qu'on est au bout de l'individualisme et qu'il n'y a plus de société, quoi ? On est dans les... Il y a beaucoup de paradoxes dans le monde où on est. Hein. La défense de droits hyper individuels, stricts comme ça, on voit bien qu'on est dans une logique il n'y a plus de société. Mais si on continue comme ça, là, on est sûr que tout va péter. Enfin, je veux dire, donc, l'espérance, enfin, je dirais, c'est pas forcément l'optimisme, mais notre devoir comme chrétien, c'est quand même de continuer à croire que politiquement, il y a quelque chose à faire. Et d'y aller, quoi. Et que ces trucs-là ne se font pas de manière magique, mais c'est comme l'évangélisation. C'est-à-dire, on va aller chercher les gens un par un. Donc, c'est là où il faut du courage. C'est-à-dire, vous voyez, faut rêver, c'est un peu comme dans l'Église. Parfois, on rêve de... On va trouver la technique pour que les gens, tout à coup, trouvent que l'Église, c'est super et reviennent. Jamais. Il n'y aura jamais de l'événement phare. Ça n'existe pas. Donc, les évêques, il faut qu'ils arrêtent de rêver à la com' événementielle. Et c'est chacun qui va chercher quelqu'un, puis une autre personne, puis une autre... C'est comme ça que ça se passe. Et ça sera la même chose dans ce domaine-là. C'est là où il faut du courage. Il faut croire que la société, qu'on peut faire société, c'est-à-dire que la cité, on est fait pour ça. S'inscrire dans une cité et l'édifier. Et croire que ça relève de notre responsabilité, c'est-à-dire que c'est à nous d'y aller et d'aller chercher les gens un par un. Là, je pense qu'on sent bien la question du courage, parce qu'on est tellement prompt à dire « ça vaut pas le coup ». À quoi bon ? La quoi bonite, hein, chez les pères du désert, c'est vraiment le truc de « je vais pas mettre de l'énergie pour pas voir que ça bouge ». À ce compte-là, c'est sûr que le Christ n'aurait pas donné sa vie, hein, c'est évident, s'il fallait voir l'effet. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi que dans ce mouvement-là, nous ne sommes pas dans une logique conséquentialiste. On n'a pas une morale matérialiste. Nous pensons qu'en fait, qu'à cet effort-là, Dieu aussi en fait quelque chose. C'est-à-dire, ma petite action dans mon coin, parce qu'elle est bonne, Dieu peut en faire quelque chose de transformant. Ça, c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous arrache à un registre de morale conséquentialiste, où là, c'est sûr qu'il y a un moment où on peut un peu débrayer. Non, je fais mon effort dans mon coin, et ça a du poids dans l'éternité. Voilà, et je termine pendant les deux minutes qui restent. C'est mon dernier point. Vous voyez, face un peu au fatalisme, un peu au cynisme ambiant, mais aussi à l'individualisme, vraiment ce courage et cette conscience politique. Ça peut paraître loin de la question de l'ascèse, je pense qu'on est exactement dans le registre de l'ascèse. C'est-à-dire se dire, je me lève le matin et je vais foutre mon énergie dans quelque chose qui, à vue humaine, n'est pas très gratifiant, là on est dans le dur de la vie spirituelle. Hein. On est vraiment dans le dur de la vie spirituelle. Et enfin, une vertu vraiment assez profonde aussi, et un enjeu, après c'est un peu ces trois dimensions des vertus et de la vie de l'âme, c'est qu'au fond, il y a un lien aussi entre cette écologie intégrale et l'unification, on pourrait dire, spirituelle de l'homme. Et là, je reviens un peu vers les éléments que j'ai dit au départ. Je trouve, mais aussi en le voyant dans le groupe là, d'écologie dont je m'occupe, c'est que si nous-mêmes, vous voyez, si nous-mêmes nous armons notre sensibilité écologique, alors en fait, ça fait refluer ou ça fait entrer la question de ma relation à Dieu dans tous mes gestes quotidiens. Et le pape François, il a un petit passage où il le dit, hein, il dit « Je peux trier mes déchets par conséquentialisme. » Alors, il ne pas là. Vous voyez, dans une... Mais je peux aussi trier mes déchets par charité. Et le but, c'est ce que dit Thérèse de Lisieux dans un je ramasse une aiguille par amour. Bon, ben aujourd'hui, pour nous, ramasser une aiguille, c'est peut-être ramasser des trucs tant qu'on ne sait pas en faire autre chose. Et l'enjeu, c'est ça, c'est que ma vie spirituelle va descendre à un niveau où souvent on a du mal à la faire descendre. Je prends les transports, il y a un enjeu de charité, parce que ça engage ma relation à Dieu et aux autres. Est-ce que c'est la question de la sobriété dans nos sociétés de confort, c'est aussi, est-ce que ces bras d'honneur, les mecs hémisphère sud, ils avaient qu'à se débrouiller autrement, nous on veut profiter quoi. Nous on est dans un système de confort, on veut profiter. Bon, par contre, c'est pas universalisable, hein, les amis, donc vous, ça va pas être possible pour vous. Et c'est, vous voyez, je veux dire, on voit bien que du côté de l'ordre de la charité fraternelle, c'est que c'est totalement désordonné, quoi, c'est complètement déconnant. Voilà, pour moi, il y a un gros enjeu de ouais, que tout d'un coup, spiritualité du Lévitique, ce qu'on n'arrive pas à vivre, tout d'un coup, par cette attention au quel type de matière je manipule, qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone, qu'est-ce qu'il y a dans mes actes d'achat, de consommation, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui je fais bosser derrière, est-ce que je m'achète des fringues dont le modèle économique s'est adossé sur le fait qu'il y a des gens qui soient en dessous d'un dollar en Inde, est-ce que je m'en fous de ça, vous voyez, est-ce que je suis un point aveugle, c'est pas normal, c'est pas possible d'avoir des cloisonnements comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a dans chacun des actes. Mais alors, dit comme ça, évidemment, en mode Greta Thunberg, c'est insupportable. Vous voyez, c'est la leçon de morale toute la journée. Mais il y a, donc, faut un peu supporter ce premier moment-là, et puis commencer à goûter le fait que quand je commence à mettre en acte, à mettre en œuvre un peu ces petites actions vertueuses, très vite, normalement, je vais regoûter le fait qu'elles sont bonnes, qu'elles, vous voyez, qu'elles sont vertueuses. Et donc, elle libère une joie spirituelle. Moi, je vous donne une toute petite expérience. Vous voyez, j'ai essayé de traiter un tout petit peu l'année dernière le sujet transport. Donc, souvent, le lundi, ma journée est un peu off. Quand je m'en vais, mon réflexe, c'était de dire où est-ce que je vais. Et puis, je prenais ma bagnole, puis j'y allais, parce qu'en général, voilà. Et maintenant, j'ai un peu renversé le raisonnement. Je me dis, mais où est-ce que je peux aller en prenant les transports en commun? Bon, alors, il se trouve que c'est... Je sors à des moments où il n'y a pas, où je ne sais pas, je suis pas dans le sens des transits. Mais en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup plus agréable. C'est-à-dire, au lieu de me reprendre des bouchons en sortant et en rentrant, et donc l'aération du milieu de journée, en fait, je me reprends du stress au retour, et donc ça, le bilan repos est à peu près nul. En fait, je prends le train, je vais avec un ami, on discute, ou bien on a le temps de lire un truc. Et vous voyez, je vois qu'il y a un espèce de bienfait supplémentaire. L'attention à la question des déchets, en fait, développe une espèce de petite, vous voyez, va déloquer une espèce d'insensibilité au réel. C'est-à-dire, tout à coup, je me commence à me dire, mais ce truc, en fait, ça vient d'où? Quel est le poids de matière qu'il y a dedans? Quel est le poids de travail qu'il y a dedans? Ce qui est exactement contenu dans le geste de l'offertoire, ceci est le fruit de la terre. Mais non, quand on dit ça, ça veut dire je soupèse ce qu'il y a dedans et du travail de l'homme. Je soupèse ce qu'il y a comme travail, comme énergie. Vous voyez,
retrouver le sens de cette matière-là, elle est précieuse. Cette matière-là, elle est précieuse. Du plastique, c'est précieux d'une certaine manière. Et le sentir, en fait, c'est bon, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se réveille en nous, dans, là, c'était le deuxième point de tout à l'heure, c'est-à-dire dans ma capacité à connaître, dans ma connaissance profonde du réel. Donc, il y a un côté un peu plombant au tout démarrage, mais il y a assez vite, il faut sentir que ceci s'inverse. Alors, ça reste un combat, hein, ça reste... je ne vous fais pas du tout la leçon, moi, je suis à 0,5. Hein. Mais voilà, quand on commence à sentir la bonté, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train justement d'être dans une assise positive, on entre dans l'exercice des vertus, c'est-à-dire qu'on reprend les choses dans le bon sens. Et en fait, bah là, c'est humanisant, quoi, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut réussir à attraper, voilà, voir que, c'est, en fait, ça engage au fond la vertu reine, qui est la charité, et donc ma charité pour mes frères et pour Dieu. Et c'est hyper stimulant, et moi je connais des personnes chez qui ça renoue, dont ça a vraiment irrigué la vie spirituelle. Des gens qui n'arrivaient pas trop à décoller, parce que l'oraison quotidienne, c'était modérément leur truc. Et tout à coup, schlac, ça déloque quelque chose, parce que Dieu entre dans mon quotidien. Alors ça, c'est très joyeux. Et puis, oui, ça peut se produire aussi, mais je ne développe pas sur la question du geste professionnel, arriver à comprendre ce que je fais dans mon travail. Qu'est-ce que c'est que mon travail? Voilà, si j'essaie de réfléchir, comment il se situe dans la collaboration à la transformation et à faire porter à la création son fruit, mais dans une perspective un peu. Et puis le dernier point que j'ai déjà évoqué, mais qui va aussi du côté de unification spirituelle et puis conversion écologie intégrale, c'est, vous voyez, d'apporter un souffle spirituel à la strate morale de notre vie. Et qui est vraiment essentiel. Benoît XVI, il a insisté là-dessus, après le moment Jean-Paul II, où pour une part, il y a eu une concentration, vous voyez, sur la morale, enfin une certaine concentration, mais avec aussi l'effet de retour médiatique, sur la morale sexuelle et familiale. Et donc, pour certaines personnes, il y a eu un côté prégnance du discours moral. Et alors Benoît XVI, au tout début de son mandat, il a dit... La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. C'est-à-dire que l'acte moral, on l'inscrit dans une intégration spirituelle. C'est vraiment ce qu'il faut faire du côté de l'écologie si on veut que, vous voyez, que toutes ces petites actions soient vécues, enfin, libèrent de la joie, quoi, je vais dire très simplement. Libèrent de la joie. Et donc là aussi, il y a un enjeu, je pense, pour nous, parce que je suis sûr que vous avez des copains autour de vous, vous voyez, qui sont un peu dans le côté un peu militant, un petit peu sécos. Et nous, il y a une responsabilité à le vivre quand même avec ce poumon spirituel, vous voyez, qui fait qu'on, je pense, ça peut vraiment apporter aussi autre chose dans la manière dont le changement est vécu. Et comme le disait quelqu'un d'Église verte, il n'y a pas très longtemps, il disait, on est quand même 1 milliard et quelques de chrétiens sur Terre. Donc, je veux dire, le 20, ça marche... si on se réveille là-dessus, c'est non, mais quand on pense à ça, ça veut dire qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a sans redevenir conséquentialiste, mais qu'on peut quand même avoir un effet de levier significatif. C'est fini. Merci.